Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités, voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Élodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver, comme chaque lundi, dans un nouvel épisode de podcast Potentiel. Et cette fois-ci, c'est un épisode un petit peu particulier, je dirais, parce qu'il est un peu plus personnel, mais je pense, et en tout cas vous me l'avez demandé, que témoigner sur ce sujet-là, et notamment de l'entrepreneuriat, peut aider d'autres personnes atypiques, en fait, ou à se décider, ou à évoluer, quand je dis se décider, parce que je sais que beaucoup hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très tendance sur les réseaux sociaux, mais c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Et la question qu'on me pose souvent, c'est, en tant qu'atypique, est-ce que vraiment c'est bénéfique? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Comment je me lance? Et cette question, elle revient très très souvent. Alors, pourquoi aujourd'hui j'en parle? En fait, j'ai l'impression que c'est assez naturel aujourd'hui pour moi de parler de ce sujet. Déjà parce que ça fait quasiment 7 ans maintenant que je suis moi-même entrepreneuse. Et puis, j'accompagne aussi des entrepreneuses. Je m'explique. Dans mes formations, en fait, beaucoup sont au début de leur vie entrepreneuriale. Donc j'ai beaucoup de femmes atypiques qui se forment aux atypies et qui viennent dans mes formations et où je propose du mentorat pendant la formation où on parle effectivement de comment on se lance, comment on peut parler de son travail, comment on peut tarifer aussi un service, comment on va communiquer dessus, se faire connaître, l'état d'esprit à développer, bref, plein de choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent très régulièrement. Et puis, dans mon programme OVPA, que tu dois peut-être connaître, donc c'est Oser la vie professionnelle atypique. Pour rappel, je suis également en fait conseillère en insertion et en transition professionnelle, diplômée d'État. Et j'accompagne sur des sortes de bilans de compétences les atypiques. Et j'ai créé tout un programme dont il y a en fait une ouverture une fois par an en général, donc... Actuellement, elles sont dans le programme, donc le programme est fermé, il faudra attendre 2025. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter si tu veux être au courant quand il y a des ouvertures, parce qu'en fait, je mets en amont, en fait, d'abord, je donne toutes les informations pour les personnes dans ma newsletter, bien avant tout le monde et avant d'en parler sur les réseaux sociaux, tout ça, donc n'hésite pas à t'inscrire. Le lien est en général, alors soit tu vas sur mon site Elodie Crépel, soit en description du podcast, si tu regardes la description, je mets le lien, en fait, de mon site et de la newsletter. En plus, tu reçois un e-book totalement gratuitement de, je sais plus combien de pages, je crois, une trentaine, quarantaine, cinquantaine, j'hésite, je sais plus, mais pour t'expliquer le haut potentiel intellectuel, l'hypersensibilité, tout ça. Donc franchement, faut pas hésiter et il y a plein d'autres avantages. Du coup, dans l'OVPA, dont j'en étais là, dans le programme OVPA, il y a eu beaucoup de questions et à chaque session de ce programme, j'ai beaucoup de femmes qui le font en vue de devenir entrepreneuse. Alors, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions là-dessus, de comment on se lance, et les peurs, et les croyances, et ce sentiment de solitude. Aussi, quand on souhaite devenir entrepreneur, et que possiblement, on n'a personne dans notre entourage qui l'est, on ne sait pas par quoi commencer, et puis c'est tellement un monde à part, qu'on peut se sentir un petit peu dépassé par tout ça, et être un peu effrayé avant même d'avoir commencé. Et comme c'est un sujet qui revient souvent aussi dans mes accompagnements, je me dis, il faut absolument que je fasse un épisode de podcast. Donc non, je ne suis pas coach business. Non, ce n'est absolument pas mon domaine de compétences au début, mais ça l'est devenu. Mon domaine, en tout cas, à moi, professionnel, parce que je le suis moi-même. Donc j'ai ma propre expérience. Et aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'entremêle ça au domaine de l'atypie. Et ça, je pense que très, très peu de personnes le font. Dans le sens où cet épisode de podcast... il est aligné avec tout ce que je vous apporte, en fait, dans mon travail, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux atypiques. C'est-à-dire que comment on vit l'entrepreneuriat, quand on est atypique, quand on est hypersensible, quand on a le cerveau en ébullition, quand on a possiblement un TDAH et donc le côté organisation, planification nous fait peur, quand on a un TSA et que le rapport aux autres est compliqué et que se dire « Attends, je comprends déjà pas les codes en entreprise et en plus je dois les apprendre pour pouvoir me vendre », ça peut être un peu la panique. Ou encore quand on est multipotentiel et on se dit « Mais je commence par quoi ?» Bref, en gros, cet épisode, il est fait pour toi. Si jamais, eh bien, tu as une ou plusieurs atypies, que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu te questionnes si tu dois te lancer, si tu t'es déjà lancé mais qu'en fait tu n'arrives pas à en vivre et tu as la sensation que tes atypies sont un problème, eh bien bienvenue dans cet épisode de podcast. Et surtout, n'hésite pas à le partager aux personnes qui peuvent être intéressées. Voilà. Donc, comment ce thème m'est venu ? Tout simplement avec vous. En fait, avec toutes vos questions et avec tous vos retours, avec votre intérêt. Et j'avais envie donc d'y répondre à la hauteur de ce que je peux répondre, bien sûr. En fait, ça, je trouve que c'est important que je garde cette posture-là. Encore une fois, je ne suis pas du tout un coach spécialisé dans le business. Je ne sais pas s'il existe des formations pour se spécialiser dans le business, peut-être. Mais j'ai l'impression que l'expérience fait aussi beaucoup, beaucoup apprendre dans ce milieu-là. J'ai l'impression que justement, le côté, autodidacte dans l'entrepreneuriat est beaucoup mis en avant et très prégnant. C'est l'apprentissage par soi-même, l'apprentissage par l'échec aussi, et donc par l'expérience. Je vous avais mis une story il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur Instagram notamment, et je vous avais posé la question suivante. Est-ce qu'un thérapeute, coach, a vocation à faire de l'argent ? Alors, la question, elle n'était pas choisie au hasard. À 98%, sur les centaines et centaines de réponses, vous m'avez répondu oui. Et j'avais mis après dans une autre story, oui pourquoi, non pourquoi, si vous voulez expliquer en fait votre réponse. Parce que des fois c'est très frustrant, on n'a ni envie de dire ni oui ni non, et puis sinon on a envie d'expliquer, enfin voilà. Et pour celles qui ont répondu non, alors toutes n'ont pas forcément répondu, mais en tout cas 1% c'est déjà pas beaucoup, enfin 2%, vous m'avez répondu que vous avez répondu non, parce qu'il y avait le mot vocation. Et c'est très juste, je l'ai fait exprès. Parce que je sais à quel point, en fait, il y en a qui mettent en fait en opposition la vocation et l'argent. Et je trouve que c'est dommage, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la question. Je crois qu'effectivement, alors là, j'avais dit un thérapeute et coach, et je vais vous donner, moi, ma réponse. Et je pense qu'elle correspond à peu près à tous les retours que j'ai eus. Donc, on va se sentir aligné, là, je sens. Mais là, je parlais bien effectivement de personnes accompagnantes. Accompagnants, qu'est-ce qu'on met dedans ? Donc les psys, les thérapeutes, les coachs, les sophrologues, les éducateurs, les profs. Enfin bref, voilà. Quand on accompagne une personne vers un mieux-être, quel qu'il soit, je ne crois pas qu'effectivement on a vocation, quand on choisit ce métier, à se dire « Ouais, je vais me faire un paquet de fric ». Clairement pas. Je pense que les personnes qui sont dans ce milieu-là, on le sait, c'est loupé. C'est pas du tout, mais alors du tout, le genre de métier qu'il faut choisir pour se faire un paquet de fric. Mais alors pas du tout. Je pense qu'il y a des métiers où on se fait beaucoup plus d'argent et beaucoup plus facilement. Et encore que, je ne sais pas, je pourrais pas comparer tous les métiers, mais en tout cas, c'est non, c'est sûr. Je pense que si on fait ce métier pour l'argent, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je le vois un peu sur les réseaux sociaux, et les personnes qui se lancent, notamment dans le coaching, qui d'un coup, voilà, veulent accompagner les autres, quand la raison première est de faire l'argent, ça ne dure pas. Ça ne dure jamais parce qu'ils ne se rendent pas compte que ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça se sent dans le rapport à l'autre. Moi, ça fait maintenant 13 ans, peut-être plus. Oh, quel âge j'ai ? J'ai un petit bug là. Non, ça fait 15 ans ! Oh là là ! Le coup de vieux ! Donc ouais, ça fait 15 ans maintenant que j'accompagne des personnes et dans des métiers totalement différents. Moi, j'ai commencé en qualité d'assistante sociale, un métier de cœur que j'aime beaucoup, sur lequel je pense que j'avais certaines frustrations de ne pas aller plus loin. C'est pour ça qu'après, je me suis lancée dans des études de psychologie, en psychanalyste, tout ça. Puis après, j'ai été médiatrice familiale, puis thérapeute, en psychanalyste. Puis après, je me suis dirigée aussi vers le coaching, ça m'a beaucoup plu. Puis voilà, maintenant, dans l'insertion professionnelle. Bon, bref, voilà. J'évolue aussi au fur et à mesure, mais ça reste toujours dans l'accompagnement des autres, en fait. Et ça fait donc plusieurs années maintenant que c'est vraiment spécialisé dans le domaine des atypies. Je pense vraiment que si on fait ça pour une autre raison que par l'amour pour l'humain, à un moment donné, on se lasse, on se fatigue, on devient un peu aigri, c'est peut-être pas fait pour nous. Ça veut pas dire que ça ne l'a pas été à un moment T de notre vie. Ça aussi, peut-être qu'on peut être de très bons accompagnants sur, 3-5 ans, mais qu'après, en fait, ça nous épuise trop et puis c'est peut-être plus quelque chose qu'on veut faire, et c'est ok, on a le droit aussi de transitionner, je ne sais pas si ce mot existe, mais voilà, je viens de l'inventer, vers un autre métier. Moi, je suis vraiment pour se laisser la liberté de ce choix de changer de carrière et de changer totalement d'environnement. Bon, ça n'a pas été mon cas. Je dois bien avouer que depuis toute petite, c'est ça qui me porte. Hein. Clairement, hein, si vous demandiez à ma mère, elle vous dirait que ma principale problématique quand j'étais enfant, c'est de me préoccuper des autres. Et on ne m'a pas éduquée comme ça. C'est pas forcément une question d'éducation. Alors peut-être qu'il y a effectivement un biais culturel, éducatif, parce que je suis une fille, je ne sais pas. Mais par exemple, j'ai jamais aimé jouer à la poupée ou des trucs comme ça. C'est pas du tout ça. J'avais une empathie, une très grande empathie pour les autres, et ça a toujours été. Très très vite, j'ai fait du bénévolat. Je me rappelle très bien qu'à 15 ans, j'ai dû demander l'autorisation du siège de la Croix-Rouge pour pouvoir faire du bénévolat parce que je n'avais pas 16 ans révolus. Bref, ça m'a toujours portée en fait. Donc, bah voilà, pour le moment, ça me porte encore. Voilà. Par contre, bah c'est vrai que quand on fait ces métiers-là, donc on est porté. On est porté par quelque chose de plus grand, par un pourquoi qui est fort. Et le souci, et moi je l'ai vu, il y a beaucoup d'accompagnants. Donc je mets accompagnants parce que ça regroupe tellement de métiers différents que même s'il y a des spécificités par métier, on est d'accord. Je trouve ça plus juste de regrouper cette grande famille. Mais après, on est d'accord qu'il y a des spécificités par métier, ça dépend où on travaille. Moi, je l'ai vu quand j'étais assistante sociale, c'est pas du tout pareil de travailler en institution, en entreprise. Enfin, c'est un métier tellement différent, que ça soit à l'hôpital. Moi, j'ai fait de l'inter-entreprise, donc ça n'a rien à voir avec certaines collègues qui bossaient, par exemple, à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. C'est pas du tout le même métier. Pour avoir fait des stages un peu partout, on peut voir effectivement que c'est très très différent. Bref, tout ça pour dire que je rencontre dans l'accompagnant, donc m'en voulez pas si jamais je parle pas de, voilà, encore une fois, de particularité. Dans ces métiers-là, on est très tourné vers les autres. Je pense que parfois, on a tendance à s'oublier. C'est pour ça, notamment, que dans ces métiers, on parle beaucoup dans le domaine de la santé, mais pas que, dans le social aussi. Moi, j'ai pu le voir. Il y a énormément de burn-out. Il y a énormément de personnes qui sont, en fait, très malheureuses et qui en deviennent de mauvais accompagnants. Pour plein de raisons, et je ne vais pas le développer dans ce podcast parce qu'il nous faudrait 2 heures, et puis le but, c'est pas de culpabiliser ces métiers-là, c'est tout un système qui est malade et qui rend finalement les accompagnants malades. Et à un moment donné, je pense que c'est hyper intéressant de switcher, se dire, est-ce que c'est le métier que je n'aime pas ou est-ce que c'est finalement la situation que je n'aime pas? Et je crois que c'est aussi pour ça que certaines personnes ont envie de se lancer à leur compte. Alors il y a des pour, il y a des contre, et je crois qu'il ne faut pas idéaliser l'entrepreneuriat. Il y a clairement des avantages et des inconvénients dans tout statut, que ça soit être fonctionnaire, être dans le salariat, être dans l'entrepreneuriat, enfin voilà. Moi qui ai été dans plusieurs situations différentes, et même dans le milieu universitaire qui est quand même vraiment à part, je me rends compte que, en fait, c'est des bulles. Tous ces milieux-là, c'est dingue, mais c'est des bulles avec leur propre code, avec leur propre fonctionnement, et qu'on ne se rend pas compte réellement du fonctionnement de cette bulle tant qu'on n'est pas dedans. Et on réapprend totalement, en fait, c'est tout un état d'esprit. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est effectivement quand on change de bulle comme ça, et quand on passe par exemple du salariat à l'entrepreneuriat, oui, c'est flippant parce qu'on a tout à apprendre. Même si votre métier de base, vous le connaissiez, vous ne connaissez pas le métier d'être entrepreneur. C'est-à-dire que, imaginons un psy qui bosse en institution et qui décide à un moment donné de se mettre à son compte, donc en libéral, c'est totalement différent. Alors, il y en a qui font le mix des deux et il y en a qui comprennent un peu ça. Mais du coup, ça peut être assez perturbant au début parce qu'on essaye, je pense, de, en fait, utiliser les codes de ce qu'on connaît. Et je vais vous donner un exemple concret, par exemple les horaires. On va se dire, je vais faire 8h, 17h. Mais en fait, dans les faits, ça n'a rien à voir et c'est peut-être même pas du tout faisable en tant qu'entrepreneur. Il y a des fois ce mythe de la semaine de 4 heures. Bah, franchement, je vous assure que je n'ai jamais rencontré une seule personne qui a réussi en faisant que 4 heures de travail par semaine. C'est juste impossible. Peut-être qu'à arriver à un certain niveau, c'est peut-être ce qu'il se permet de faire, mais en fait, qu'est-ce qu'il a mis en place et qu'est-ce qu'il a sacrifié pour en arriver là? Ça, c'est une question dont on ne parle jamais. Donc, moi, je dis souvent, il y a une liberté, effectivement, d'entrepreneuriat qui est grisante et que j'adore et j'aurais bien du mal aujourd'hui à m'en passer. Par contre, cette liberté, elle a un prix. Elle a un coût dont on ne parle pas. Je vais vous en parler un peu plus de ça, mais peut-être pas dans cet épisode de podcast parce que j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai pas envie que ça fasse 1 heure. Et en fait, je vous ai proposé en story si vous aimeriez que je vous fasse un webinaire sur le sujet. Il sera totalement gratuit. Et vous m'avez répondu oui à 99%. Donc autant vous dire que j'ai la sensation que ce sujet, vous avez envie que je vous en parle, justement, toujours encore une fois, à la lumière des atypies. Donc ça tombe bien, je vais le faire. Et ça sera le 11 mai, normalement. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Mais le 11 mai, je crois que c'est un samedi, à 20h30, heure de France, on se retrouve. Vous pouvez vous inscrire là directement, vous avez le lien, pareil dans la description de ce podcast. Ou sinon, je pense que vous l'avez sur mon site. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais en tout cas, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en parlerai. Donc, il sera en replay pour les personnes inscrites seulement. Donc, si vous inscrivez et que vous n'êtes pas disponible le 11 mai, ben, je vous enverrai le replay. Mais je pense que c'est oui, je pense que c'est important en fait d'en parler parce que beaucoup se questionnent. Et je vais vous parler justement de tout ça. Mais aussi, je pense de tout ce qui est en lien avec le rapport à l'argent. Parce que quand je vous ai posé la question en story, est-ce qu'un thérapeute, un coach a vocation à faire de l'argent? Alors à 98%, vous m'avez répondu oui, dans le sens en fait, ça reste un métier, ça reste un travail, et en fait, on a le droit de gagner tout simplement de l'argent sur ses compétences professionnelles. C'est-à-dire que, bah, en fait, on ne se verrait pas demain dire à un boulanger qui adore faire du pain, bah, vu que tu aimes faire du pain et que moi j'ai faim, bah, pourquoi tu ne me le donnes pas? Bah non, en fait. Et je pense que ça y est, maintenant, dans les mœurs, c'est vraiment acquis et on n'a plus besoin, enfin, peut-être encore besoin dans certains milieux de sensibiliser. En tout cas, au sein de ma communauté, j'ai l'impression que c'est OK. Donc, je ne vais pas forcément développer ce sujet-là. On va se dire qu'on est d'accord, voilà. Donc, on a le droit de faire de l'argent. Et là, par contre, on touche effectivement un petit point sensible, c'est de l'argent. Oui, mais combien? Et il y en a beaucoup qui ont eu cette honnêteté de le dire, et j'ai trouvé ça super chouette de dire, bah oui, faire de l'argent, d'accord, mais bon, il faut être raisonnable. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est quoi être raisonnable? C'est hyper subjectif, en fait. Peut-être que certaines personnes se disent, bah au-delà de 3000 euros, non, quand même. Hein, là, c'est peut-être un peu trop d'argent. D'autres dire, bah 10 000, je veux bien, mais pas plus. D'autres, je sais pas, moi, 100 000. Enfin, voilà, on peut aller encore plus loin, quoi. Donc, c'est quoi être raisonnable? Et en fait, pourquoi il y a cette notion de raisonnabilité? Je sais pas, de raison. Aujourd'hui, hein, j'invente des mots, je crois. De raison dans la notion d'argent. Et là, moi, je vais vraiment être totalement transparente. Hein. Cette notion d'argent, j'ai beaucoup dû travailler dessus. Et je me rends compte que dans le milieu justement de l'accompagnement, parce que il y a quand même un don de soi, et parce que souvent on fait ces métiers, comme je le disais, par envie, et parce qu'on croit dans l'humanité, dans ce qu'il y a de meilleur dans l'humain, parce qu'on a envie d'aider les gens à dépasser certaines difficultés, parce que il y a une empathie, une compassion naturelle. On ne se permet pas, en fait, de mettre la notion d'argent dedans. Dans nos formations, déjà, c'est pas bien vu. Dans ces milieux-là, c'est pas bien vu. Et je me suis rendu compte que tant que je voyais ça de manière négative, bah, ça allait pas forcément m'aider à faire de l'argent. Sauf que moi, je suis le seul revenu de ma famille. J'ai 4 enfants, je vis au Royaume-Uni. Clairement, si vous parlez d'inflation en France, au Royaume-Uni, c'est pire. La vie est extrêmement chère. Je serai en France, j'aurai certainement des aides de la CAF parce que j'ai 4 enfants. J'en ai pas du tout ici, c'est peanuts. Mon loyer est exorbitant, enfin, tout est vraiment très cher. Mais bon, je sais pourquoi nous restons ici. Et voilà, sauf que ça m'a en tout cas confrontée à une réalité. Hein. Et genre, je n'ai pas eu le choix. Je me suis dit, là, soit j'augmente mon revenu, soit on est obligé en fait de partir et de ne pas pouvoir rester là. Et on avait envie de rester. Donc, je me dis, en fait, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait? Pourtant, je travaillais comme une folle. Je comptais pas mes heures. Je commençais très tôt le matin, je finissais très tard le soir, sans week-end, sans vacances, tout en m'occupant de mes enfants. Puis, on faisait de l'instruction en famille. Donc, bref, c'était très difficile. Et en fait, j'ai mis à un moment donné le doigt dessus. Et je me suis rendu compte que mon état d'esprit, ce qu'on appelle souvent le mindset, n'allait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais une très bonne accompagnante, enfin, sans me jeter des fleurs, mais en tout cas, même si, allez, je suis persuadée qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de mon travail, et il y en aura toujours, dans l'ensemble, je pense quand même que ça va. D'accord? En tout cas, j'ai envie de dire, j'ai déployé beaucoup d'efforts et de compétences sur mon métier d'accompagnante. Par contre, en qualité d'entrepreneuse, ça n'allait pas. Je n'ai pas su développer cet axe-là parce que j'étais bloquée. J'étais bloquée sur... Qu'est-ce que c'était l'argent? Qu'est-ce que c'était le marketing? Que de toute façon, je vais te dire, de toute façon, moi, je ne sais pas me vendre. Mais en fait, ça, c'est pas un bon mindset. Parce qu'en fait, un bon mindset d'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est se dire, je ne sais pas faire. Ok, j'apprends à le faire. Point. Et quand je me suis mis face à cette réalité, je me suis dit, mais en fait, arrête. Arrête parce que c'est toi, toute seule, qui te mets des barrières. Et je crois que c'est hyper auto-thérapeutique l'entrepreneuriat, pardon, mais genre vraiment, parce que on est un petit peu obligé à un moment donné de se dire, en fait, tu ne peux compter que sur toi. Donc soit tu réussis par toi-même, soit si tu échoues, c'est à cause de toi. Point, c'est tout. C'est tout. Alors oui, il y a toujours une part de chance et je suis la première à dire que on n'a pas la maîtrise de tout et qu'on ne peut pas dire que on arrive tous avec les mêmes compétences et les mêmes chances. C'est pas vrai. Je pense que les personnes qui ont justement dans leur entourage des entrepreneurs, ils partent avec un bon coup d'avance. Parce que ils peuvent palper un peu les difficultés, ils peuvent tirer parti des expériences des autres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est bien de s'entourer d'autres entrepreneurs. Déjà, d'entrepreneurs qui ont potentiellement qui sont au même niveau que vous. Moi, je sais que, bah, en fait, je pense souvent à mes collègues illustratrices et amies avec qui j'ai partagé mes débuts. Même si on n'était pas du tout dans le même milieu, on s'est énormément soutenu. C'est-à-dire que c'était des échanges tous les jours. Et j'ai une gratitude infinie d'avoir trouvé des personnes comme ça parce qu'on avait des valeurs similaires. Et finalement, même si on n'était pas dans le même milieu, on avait des questionnements similaires, des problématiques similaires. Et ça nous a énormément aidé à passer le cap de ces premières années qui sont difficiles. Et après, ce qui m'a beaucoup aidée, mais c'était dans un second temps, de trouver des gens, des mentors, des gens qui avaient plus d'expérience que moi et qui m'ont appris des choses, qui m'ont permis de comprendre des choses sur les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs à ne pas refaire. Et ça, c'est très formateur aussi. Donc, puis j'ai beaucoup lu, beaucoup. Bref, j'ai énormément à partager. Et sur ces deux dernières années, ça s'est vu parce que mon chiffre d'affaires a augmenté, mais de façon considérable. Pour autant, je n'ai pas plus travaillé, mais j'ai mieux travaillé. J'ai compris en fait comment travailler. Et la qualité de mes accompagnements sont toujours, j'allais dire aussi bons, mais bon, c'est subjectif, mais en tout cas, j'ai pas plus de mauvais retours ou quoi que ce soit. Enfin non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai changé mon état d'esprit, parce que j'ai compris qu'il fallait que je développe en fait ce côté entrepreneurial en moi. Mais aussi parce que je pense que j'ai acquéri une connaissance sur mes atypies. Et j'en ai fait quelque chose. Je me suis beaucoup questionnée, par exemple, en tant que personne hypersensible, quelle est la place des émotions dans l'entrepreneuriat? Et j'ai énormément grandi par rapport à ça. Et il y a aussi autre chose, c'est mes problèmes relationnels. Je ne l'ai jamais caché, mais clairement, comprendre les codes, ça a été vraiment une souffrance terrible. Je ne vais pas là tout vous raconter, mais je veux dire à l'école, au collège, non, ça a été très très dur. Et même dans mes débuts de vie de salariat, j'ai beaucoup connu le harcèlement. Ça a été extrêmement difficile. Ça a été extrêmement douloureux et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'en fais presque un cheval de bataille et que par exemple mon dernier livre, que vous connaissez certainement, mais non, mais c'est décidé, je change ma vie, que j'ai écrit en collaboration avec Fabrice Michaud. C'est beaucoup sur la compréhension des codes sociaux justement, mais aussi la compréhension de soi-même, la place qu'on a au sein d'un groupe social. Moi, ça m'a beaucoup porté parce que ça a été une grande difficulté pour moi. Donc, j'ai envie de transmettre un petit peu les clés que j'ai réussi à trouver, à voir après si ça vous parle. Et peut-être vous aider à constituer votre propre trousseau de clés surtout. Bref, du coup, le lien avec les autres, ça a été difficile. En plus, au début de ma vie d'entrepreneur, je me suis liée avec des personnes qui ont été très toxiques pour moi. Bref, ça a été l'horreur, vraiment l'horreur. Ça a été une descente, mais plus. Je pense que si j'avais pas eu l'obligation d'apporter un revenu à la famille, j'aurais tout abandonné, c'est une évidence. Et c'est parce que j'étais face au mur que j'ai pas lâché. Je regrette pas, mais ça a été très dur. Et franchement, je vais le dire, ça a été traumatisant. Ça a été vraiment traumatisant. Je suis passée par des moments très difficiles et je me suis forcément beaucoup remis en question. Bah, toi-même, tu sais, hein, quand on est hypersensible, atypique, on se remet toujours en question on s'auto-flagelle et on s'auto-sabote au final. Et j'en suis venue à me dire, mais en fait, je suis nulle dans les relations, je suis nulle pour lier des liens avec les gens et je suis donc restée solopreneur très longtemps parce que j'avais cette croyance-là. En fait, j'ai donc beaucoup travaillé sur, je pense, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui me l'a permis. Et j'ai rencontré aussi, ça m'a amené aussi à rencontrer des gens assez exceptionnels où je me dis, en fait, je peux avoir confiance dans certaines personnes. Dans ce milieu-là, que je voyais comme un monde, finalement, juste de requins, où j'avais la sensation d'être un petit poisson d'eau douce qui se faisait bouffer de partout et qui était juste terrorisé entre deux cailloux. Mais je vous le dis vraiment comme ça, hein, c'est vrai. J'ai appris à voir qu'en fait, ça se passait pas du tout comme ça. Mais il a fallu changer de mindset, il a fallu changer d'état d'esprit. Et j'ai vraiment envie de vous amener à développer ça pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet, bien sûr. Et donc, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables, avec des valeurs similaires, mais j'ai aussi compris comment je pouvais comprendre les codes aussi de ce milieu, de cette petite bulle dans l'entrepreneuriat, comment je peux me développer avec mes caractéristiques atypiques, avec toutes mes émotions, avec mes difficultés sociales, avec aussi ma soif de curiosité, de créativité. En fait, je suis une boulimique de création et de curiosité, mais genre vraiment. Avec ma multipotentialité aussi, je me suis dit, ok, il y a quand même des super avantages à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je ne suis plus solopreneur, j'ai vraiment une société, je travaille en collaboration avec plein de personnes qui m'accompagnent sur plein de projets différents, et c'est vraiment très très chouette, et on se sent entouré, soutenu, et les choses évoluent, et je suis vraiment contente d'en arriver là aujourd'hui, où les choses sont posées, j'ai plus du tout les mêmes peurs bien sûr qu'au début, mais les choses en fait évoluent sans cesse, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que autant c'est extrêmement stimulant, autant parfois ça donne un peu le vertige, tant... En fait, l'entrepreneuriat, on a la sensation que c'est jamais de fin, il n'y a jamais d'acquis. On doit toujours tout se réinventer, on doit toujours tout réessayer. En fait, on va d'échec en échec. Et des fois, il y a du succès. Et du coup, ça nous apprend à vraiment apprécier l'échec. Alors, je dis ça, mais c'est pas toujours facile quand même, hein, faut être honnête. Mais ça nous apprend à avoir, encore une fois, un autre mindset, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. Je fais un gros clin d'œil aux personnes de l'OVPA parce qu'elles savent de quoi je parle, c'est-à-dire l'état d'esprit de croissance. C'est comment on passe du fixed mindset au growth mindset. Bref, c'est hyper intéressant, mais c'est pas que ça. Et encore une fois, bon, je vous ai livré, voilà, je veux pas faire un trop long épisode podcast parce que vous savez que j'essaye de faire court, mais je pense que c'est important de se rendre compte que nos atypies sont pas forcément la difficulté. C'est pas... En fait, je pense que c'est important de vous dire que justement, elles peuvent être un atout dans votre vie d'entrepreneur. Je vais essayer du coup, pendant le webinaire, de vous faire passer un petit test comme ça, pour que vous puissiez vous caler sur où est-ce que je me positionne, où est-ce que j'aimerais me positionner, et vous donner des petits tips, voilà, et vous proposer certaines choses pendant ce webinaire. J'ai vraiment hâte de vous le proposer, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Si tout cet épisode vous a parlé, parce qu'il s'agit de quelque chose de très personnel, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, ben rendez-vous le 11 mai pour le webinaire. Si jamais vous écoutez cet épisode de podcast le 11 mai passé, ben j'en suis désolée. je referai peut-être un webinaire, je ne sais pas encore, hein, on verra comment ça passe pour le premier, honnêtement. Mais j'espère quand même que cet épisode de podcast vous a peut-être rassuré en fait, sur des peurs, sur des croyances. Sachez que si je suis passée par là, déjà je suis loin d'être la seule, mais c'est que c'est possible en fait de réussir avec tout ça, avec tout ce package qu'on a l'impression que c'est lourd, c'est fatigant, c'est crevant. Donc si il y a des choses à retenir de cet épisode, le premier c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal en fait d'avoir beaucoup de croyances, c'est que l'entrepreneuriat c'est une bulle comme en fait les autres milieux, les autres statuts, une bulle qui a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'il ne faut pas idéaliser le truc, mais il ne faut pas non plus en avoir peur, en fait tout s'apprend. Et donc effectivement... tout s'apprend, si on ne sait pas faire, ben ça s'apprend. Donc c'est aussi une question d'état d'esprit, de développer cet état d'esprit, que c'est important de se rendre compte que nos atypies, oui, ça peut être compliqué, mais oui, et surtout oui, on peut en faire de super compétences et on peut s'épanouir dans ce milieu entrepreneurial, et ça c'est top, mais qu'il ne faut pas être seul. Que justement, une erreur, et je pense que les entrepreneurs qui ne s'en sortent pas et qui finalement, c'est très difficile pour eux, c'est parce qu'ils n'ont pas su bien s'entourer, ils n'ont pas su trouver l'aide nécessaire. Donc j'espère vraiment que le webinaire sera une aide en fait, en plus, soit parce que vous vous interrogez à savoir si vous devez vous lancer, soit parce que vous êtes lancé et que ça devient un petit peu compliqué, que vous vous sentez seul et que vous avez la sensation que vous n'allez pas y arriver et que vous avez cette crainte-là, le webinaire est là pour vous. Voilà, je m'arrête là. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis hyper curieuse de savoir si vous avez aimé cet épisode, si vous en voulez d'autres aussi sur le sujet, pourquoi pas. Je sais pas encore si jamais j'en parlerai plus que ça, mais ça peut être intéressant, ça dépend le nombre de retours en fait. S'il y a beaucoup de retours, je me dis bon, c'est que potentiellement il y a quand même tout un public intéressé. Je vous donnerai pendant le webinaire aussi une bibliographie et même des podcasts que moi j'ai écoutés qui m'ont beaucoup aidé en fait, sur tous ces sujets-là. Et bien sûr, je vous souhaite une bonne semaine. Vous n'hésitez pas à noter le podcast, hein, qu'importe où vous l'écoutez, c'est hyper important. Si vous êtes notamment sur Spotify, en fait, vous ne pouvez pas noter chaque épisode. Il faut aller sur le podcast et vous avez les trois petits points et il y a effectivement évaluer en fait le podcast. On ne peut pas évaluer d'épisode à épisode, mais vous pouvez laisser un commentaire sous cet épisode. Voilà. Et selon le nombre de commentaires, je verrai si effectivement c'est intéressant ou pas de développer le sujet. Vous pouvez aussi me faire un retour sinon sur Instagram, avec grand plaisir. N'hésitez pas à le partager en story auprès de vos amis, enfin bref, voilà. N'hésitez pas, ça donne de la visibilité à ce podcast et c'est grâce à vous qu'il continue à exister. Donc un grand, grand merci. Bon, sur ce, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pendant le webinaire, en tout cas j'espère. Voilà, bye. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!